Alors on est, je l'évoquais, on est dans la semaine de Pâques et dimanche dernier on a commencé cette mini trilogie sur Pâques. On avait à cœur de vous partager autour de ces textes clés, notamment des évangiles de Matthieu, chapitres 26, 27 et 28. Et on avait vu que Pâques c'est quoi? C'est une mort qui donne la vie. Et une vie qui détruit la mort. Une mort qui donne la vie et une vie qui détruit la mort. Alors le volet de la semaine dernière, hein, du chapitre 26, on avait vu autour de quelques scènes qui précédaient l'arrestation, qui précédaient sa mise à mort, que Jésus, avant sa mort, avait clairement expliqué l'objet de sa mission. Il l'avait partagé depuis des semaines à ses disciples et on a vu que à la veille de sa mort, il l'a partagé. Et on l'a vu notamment autour de cette scène, hein, cette scène mythique, hein, d'ailleurs la Sainte Cène que nous partageons aussi avec ces éléments que Jésus avait présenté à ses disciples. Il a dit, voilà, je donne mon corps pour vous ouvrir, pour vous offrir une nouvelle relation, une nouvelle alliance marquée par mon sang. Et que cette mort allait régler une fois pour toutes la question du péché, la question de ce qui nous séparait de lui. Jésus, voilà ce qu'il avait annoncé avant sa mort. Il avait annoncé clairement sa mission. Je suis là pour donner ma vie et pour régler à jamais la question de ce qui vous sépare entre Dieu et les hommes. Et ce matin, je vous propose le volet 2. Je vous propose ce titre, hein, À sa mort, Jésus-Christ. À sa mort, Jésus accomplit la mission. Jésus accomplit ce que Dieu lui a confié de faire. Alors, le message de Jésus mort, le message de Jésus crucifié, mes amis, reste insensé, incompréhensible pour le monde. Pourtant, c'est là, à sa mort, que se joue toute la mission de Dieu. C'est pas un lieu d'échec. C'est l'apogée de l'œuvre de Christ, c'est sa mort. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul qui ne voulait savoir parmi eux que Jésus-Christ crucifié. Et même déjà du temps de Jésus, on avait du respect pour ceux qui avaient du pouvoir, pour ceux qui avaient de l'autorité, ceux qui avaient une influence. Les Juifs vivaient sous l'occupation romaine et ils attendaient quoi? Un libérateur de cette occupation romaine qui les libère. On a découvert aussi, si vous parcourez les évangiles, on découvre un peuple qui est attaché à des rituels, qui est attaché à des temps, au temple et à des nombreuses lois qu'ils avaient dressées. Ils étaient attachés à des choses. Et le monde, mes amis, n'a pas changé. Ce qui est important, c'est ce qui est important, c'est ce qui est important qui mérite d'être écouté. C'est ce qui est bien suivi, c'est ce qui a du succès, qui mérite qu'on fixe notre attention. Celui qui a du pouvoir, celui qui a une influence. Quand on regarde aujourd'hui les jeunes, ben, qui suivent? Ils suivent la personne qui est la plus influente. On parle même des influenceuses sur les réseaux sociaux. On est fasciné par les célébrités, par les familles royales. On aime les personnes célèbres, influentes. Et même dans le domaine religieux. Regardez à quoi on s'attache. Une église qui est pleine à craquer, une église qui grandit. On a envie de regarder les prédications d'hommes éloquents, d'hommes de Dieu qui sont écoutés, vus, partagés par beaucoup. L'influence. L'influence. Mais à Pâques, mais avec la mort de Christ, on est appelé à contempler un homme qui est mort, dans d'affreuses souffrances, dans le déshonneur, rejeté, seul, sur une croix. Et la parole nous dit, c'est ça l'élément central. C'est là que votre regard doit se fixer. Christ crucifié. Et la parole de Dieu va le souligner. C'est le point central. Et le texte de ce matin, qui va être peut-être un peu long, mais qu'on connaît, qu'on a déjà entendu, va aussi encore nous le rappeler. Parce que Christ, parce que Dieu a délibérément choisi ce moment de cette mort de Christ pour nous sauver. Par la mort, par la crucifixion de Christ. Et c'est là que Dieu nous révèle sa puissance, sa sagesse, sa grâce, sa bonté. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est plein de textes de l'Écriture. À sa mort, Jésus accomplit parfaitement sa mission. C'est le cœur de l'Écriture, un moment unique dans l'histoire. Alors, aucun d'entre nous, nous avons vu ce moment, mais nous pouvons le découvrir au travers des récits, des témoins de ces moments-là. Et je vous propose, donc Matthieu 27, partir du verset 26. Je vous invite à prendre vos Bibles si vous l'avez, ou sinon à écouter. Je prends à partir du verset 26 parce qu'il fait l'articulation entre son procès et la condamnation. Alors Pilate leur relâcha Barabbas, et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent toute la troupe autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau écarlate. Ils dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui, prenaient le roseau et le frappaient sur la tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés à un endroit appelé Golgotha, ce qui signifie « lieu du crâne », ils lui donnèrent à boire du vinaigre mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il n'en voulut pas boire. Ils le crucifièrent. Puis ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort mon habit. Puis les soldats s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le motif de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix !» Les chefs des prêtres, avec les spécialistes de la loi et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Bah, si les rois d'Israël, qui descendent maintenant de la croix, et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime. En effet, il a dit « Je suis le Fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient, eux aussi de la même manière. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient « Il appelle Élie !» Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbéba de vinaigre et le fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse donc !» Voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ceux qui venaient d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait bien là des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figuraient Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, un homme riche d'Arimathée du nom de Joseph, qui lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de lui le remettre. Jésus prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin pur et le déposa dans un tombeau neuf qui s'était fait creuser dans la roche. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et il s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là aussi, assis vis-à-vis du tombeau. Le lendemain, qui était le jour après la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et les pharisiens allèrent ensemble chez Pilate et dirent « Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit « Quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps et dire au peuple « Il est ressuscité !» Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit « Vous avez une garde, allez-y, gardez-le comme vous le souhaitez. » Ils s'en allèrent et firent surveiller le tombeau par garde après avoir scellé la pierre. Beaucoup de textes connus. Alors, on ne va pas regarder tous les détails autour de cette mort, hein, parce qu'on pourrait prendre aussi les textes parallèles qui donnent d'autres éléments, d'autres indications. Un spectacle. Je ne sais pas si vous avez déjà été à un spectacle, j'imagine que oui. Hein. Il y a toute une sorte de spectacle. Spectacle des enfants,
préparé par quelques animateurs, un concert. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller au Puy du Fou, à l'autre bout de la France, mais des spectacles extraordinaires de reconstitution, de différents temps, d'époques. Mais la Bible nous dit que la mort de Jésus est le plus grand spectacle donné au monde. Plus grand spectacle donné au monde. Et on voit ça dans Luc 23, par exemple, verset 48. Et le récit, il est sobre. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est assez sobrement. C'est assez court, un chapitre. Et après, toute l'écriture, toute la Bible va centrer sur cette mort. Jésus-Christ crucifié. Mes amis, mieux nous comprenons la croix, mieux nous comprenons la croix, mieux nous allons nous être impressionnés, nous réjouir de la grâce de Dieu, du pardon et de ce qu'il a manifesté envers nous. Et mieux nous arriverons aussi à l'expliquer aux autres de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Mes amis, la mort de Christ se trouve au centre de notre foi, au cœur du christianisme. C'est le tournant de l'histoire, le moment décisif de notre foi. Un spectacle qui ne s'agit pas de voir, mais d'écouter, d'entendre. Car la foi ne vient pas en voyant, mais en écoutant, mais en entendant. Quand on survole un peu la Bible, on voit que la mort de Christ a glorifié son Père. Sa mort a couronné une vie exemplaire. Sa mort a réduit à néant les projets, les prétentions de Satan sur nos vies. Car Jésus a subi à notre place la peine qui était exigée par la loi de Dieu. Mais le plus grand exploit accompli par Christ, par sa mort, c'est d'avoir satisfait aux exigences de Dieu, la justice sainte. Il y avait la nécessité qu'un juste meure à notre place. Jésus, comme un paratonnerre, a choisi de prendre à notre place la colère de Dieu. C'est pour ça que c'est un élément central. À la fois, Christ subit la colère en nous montrant son amour envers les autres. Extraordinaire. Par notre foi dans la croix, notre péché n'est plus compté, ne nous est plus compté. On a libre accès. Et je vous propose de voir 6 éléments ce matin qui vont montrer combien ces textes montrent que ça accomplit la parole de Dieu. Alors il y a un premier épisode, c'est humilier. Jésus accomplit la mission. Et ça, c'est le premier épisode où il n'est pas encore conduit, il est condamné, il y a la sentence, il y a le jugement, totalement injuste, autant des Juifs que des Romains. Jésus doit être crucifié. Il subit des coups de fouet. Et là, on le livre à un premier spectacle. Et je me dis, mais pourquoi ? Pourquoi il est mis devant une troupe de soldats ? Certaines traductions ont une légion. Ça veut dire 600 hommes, il disait, voilà, grand max, mais voilà, même si on prend 300 hommes, même si on prend 100 hommes, il est livré en spectacle devant 100 hommes. Allez, imaginez. Il est humilié, le roi des Juifs. Et on rend ici, quelque part, hommage à un roi à leur façon. On parodie un couronnement, une intronisation. Je ne sais pas si on visualise la scène. Il est attaché, on lui enlève ses vêtements, on lui met un vieux manteau écarlate d'un soldat. Une couronne d'épines, un roseau pour sceptre. On s'incline devant lui, on le frappe, on lui crache. Aucun sujet ne ferait ça d'un roi. Jésus-Christ, ici, on voit qu'il est livré à des agissements cruels, des amusements cruels, des sévices. En méditant un peu sur ce passage, je me suis dit, mais là, on voit en fait toute la méchanceté naturelle du cœur de l'homme. Bien sûr, peut-être entraîné par la foule, mais on voit toute la crasse de l'homme qui fait retomber là sur un homme qui est condamné, ben voilà, et il est le Fils de Dieu. On le souille. Il devient là, à ce moment-là, entouré de ses soldats, le symbole complet du rejet de l'homme. Les hommes le rejettent, des juifs comme des non-juifs. Je me suis dit en plus avec cette image, alors on ne va pas trop rentrer dans le symbolisme, mais ce manteau rouge écarlate, il prend sur lui toute la crasse en fait. Là, ça se déchaîne, on se défoule. Aujourd'hui, à l'heure des réseaux, on voit des images parfois comme ça, où les gens se défoulent sur quelqu'un qui est considéré comme peu important. On le voit dans d'autres pays où les chrétiens sont persécutés. On se moque de sa royauté. On lui enlève sa dignité. Mais où est passée ta puissance ? Où est ton armée pour te défendre ? En quelques lignes, on a l'humiliation. Il est humilié. Il est humilié. Le Fils de Dieu. Mes amis, ça participe à l'accomplissement de la mission de Dieu. Simplement, Philippiens 2, on a peut-être en tête ce texte, il s'est humilié lui-même, il s'est dépouillé, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, aux plus petits, aux plus faibles, en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, Philippiens 2, 7, 8. Et Jésus ne dit rien, on n'entend rien face à cela. Terrible. Sans parler, sans évoquer de se venger, il est soumis, et non pas dans un signe de faiblesse, mais de force. Il avait prédit qu'on se moquerait de lui, que le monde allait le rejeter, qu'on le ferait souffrir et qu'on allait le livrer à la croix.
À l'heure où l'homme accomplit de la malveillance, on l'humilie, Jésus-Christ est en train d'accomplir ce pourquoi il était là. Revêtir toute la saleté, la déchéance, la crasse, tout ce que vous voulez, le péché de l'homme. Deuxième temps, bien sûr, crucifié. Jésus accomplit sa mission. À partir du verset 32, mais la description, elle est sobre de l'événement. On n'a pas besoin d'images trash pour nous marquer. On n'a pas besoin d'images sanglantes. Les différents auteurs d'ailleurs des évangiles nous parlent de façon très sobre de ce qui se passe, de cette mise à mort. Entouré de brigands, gardé par des soldats, jugé comme un paria, une mort réservée pour des criminels, pour des esclaves, pour des étrangers, même un citoyen romain ne devait pas mourir de telle façon. C'était vu comme une malédiction, un homme pendu à un arbre, une forme de peine dégradant, de honte, d'infamie. On le sait que les Romains, en pratiquant ce type de mise à mort, c'était vraiment, ils voulaient enlever, éliminer toute forme de considération qu'on pouvait avoir pour cet homme. Une extermination. La mort de Jésus. On conduit Jésus-Christ hors de la ville, sur le lieu de l'exécution, hein, vous l'avez vu, quelqu'un est obligé de porter sa croix. Il a une pancarte autour du cou annonçant son crime qui allait être affiché au-dessus. On dresse la croix le long d'une route passante, visible. Mes amis, la mort sur la croix, ce n'est pas une mort subite, pas une mort radicale, mais une mort lente. On agonise. C'est un spectacle. Et les Romains, ils voulaient ça, ils aimaient ça. Un spectacle de souffrance, de douleur, pendant des heures, parfois même des jours. Et cette mort-là, alors même si on doit l'évoquer, c'est une mort où il y avait de l'étourdissement, des crampes, de la soif, de la faim, la honte, le tourment de la durée. J'imagine l'horreur en anticipant avant d'être mis sur la croix, la mortification des blessures, l'agonie, la difficulté à respirer, le moindre muscle qui doit faire mal à la vue de tous. Mes amis, la croix, la crucifixion, c'est une humiliation effroyable. Mais le texte ici ne met pas l'accent là-dessus. Il est crucifié. C'est l'Ancien Testament qui va nous éclairer. Et on connaît tous Ésaïe 53. Je vais simplement vous le lire. Méprisé, délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé. Nous n'avons fait aucun cas de lui. Voilà ce que cette mise à mort voulait signifier. On voulait lui donner une boisson narcotique, hein. C'est ça ce vin et tout ça, mais Jésus a refusé, il veut être en possession de ses facultés. Les soldats le crucifient comme une autre condamnation. Je relis verset 35, hein. Ils le crucifièrent, presque point, puis ils se partagèrent ses vêtements, et ils le gardent. Et cette habitude de partager le butin, même l'Écriture l'a aussi annoncé. Psaume 22, d'ailleurs si vous voulez lire en parallèle le psaume 22, il présente cet événement de la mort. Il se partage mes vêtements, il tire au sort mon habit. Mes amis, le plus grand spectacle que l'homme est appelé à regarder pour la vie, c'est la crucifixion d'un homme ridiculisé, d'un homme méprisé, d'un homme battu, d'un homme ensangloté, d'un homme pendu au bois, mais dans une sobriété qui montre que c'est le roi des rois, accomplissant ce que les prophètes ont décrit depuis des siècles. Il n'est pas non seulement, il n'est pas juste crucifié, mais vous l'avez vu, il est moqué. Jésus n'est pas exécuté dans un bâtiment isolé, à l'abri des regards, loin des bruits, loin de l'agitation, la ville. Non, il est exécuté le long d'une route, probablement devant des centaines de badauds, des pèlerins qui vont à Jérusalem pour célébrer la Pâque. Des soldats, on l'a dit, des voyageurs, on voit des prêtres, des chefs religieux. Une situation humiliante que les Écritures avaient aussi dit. Et une fois de plus, des moqueries lui sont lancées à la figure, par deux groupes de moqueurs, hein, vous l'avez vu, la foule et les chefs religieux. Je vous lis juste le psaume 22 qui parle de cela, 7 et 9. « Mais moi, je suis un ver et non un homme. La honte de l'humanité, celui que le peuple méprise. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ricanent, ils hochent la tête. Recommode ton sort à l'Éternel. L'Éternel le sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. Wow » Regardez ce qui se passe à la croix. La population le pointe du doigt, même les chefs religieux. Il lui rappelle sa promesse de reconstruire le temple en 3 jours. Les autorités juives se moquent de lui. Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Oui, il avait sauvé les autres, mais là, il allait sauver tous les autres. Et malgré les insultes, Jésus ne réagit pas. Il aurait pu, avec miracle, avec force, faire taire cette foule. Il aurait pu. Mais s'il l'avait fait, nous ne serions pas là. Je ne serais pas en train de vous parler de cela, parce que la croix est au cœur de ce sacrifice. Il a fallu que lui meure pour nous donner la vie. Justement, il faut qu'il meure pour nous sauver. Il ne faut pas qu'il se sauve. C'est pour nous sauver qu'il ne peut pas se sauver. Il ne vient pas pour épargner sa vie, mais il est venu pour la donner en rançon. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, en rançon. Ils le tournent en ridicule. Ils pensent avoir affaire à un usurpateur. Ils sont convaincus d'avoir Dieu à leur côté, persuadés que Jésus ne vient pas de Dieu et qu'il ne peut donc pas maintenant se sauver lui-même. Et pourtant, la suite des événements va démontrer le contraire. Et d'ailleurs, le spectacle continue. Et là, on a comme nulle part ailleurs un enchaînement de certains signes, on le lit peut-être rapidement, qui vont démontrer, qui vont marquer que Jésus accomplit sa mission. À partir de versets 51 à 54. Plusieurs signes, plusieurs événements vont montrer la mort de Jésus. Il y a ces ténèbres surnaturelles, inhabituelles. Rappelez-vous, à sa naissance, c'était quoi ? Lors de la nuit, une lumière éblouissante qui a réveillé les bergers. Ici, de redoutables ténèbres qui accompagnent la mort de Jésus. Le soleil s'obscurcit sur tout le pays. Et là, le texte ne précise pas la raison d'être de ces ténèbres, ne dit pas pourquoi. Mais dans la tête d'un juif, en sachant ce que Dieu avait dit des siècles et des siècles avant, ils ont en tête que les ténèbres sont un signe du jugement de Dieu, un signe de la colère de Dieu. Dieu présent manifeste sa colère contre le péché. Dans tous les passages de l'Ancien Testament, l'obscurité, les ténèbres sont le signe de la colère de Dieu qui s'abat, le jugement de Dieu, la réaction de Dieu au péché. Et 3 heures de ténèbres à midi. Moi, en 99, j'ai eu le privilège, je me rappelle clairement, de suivre une éclipse totale. Je crois que c'était aussi dans l'après-midi. 2 minutes, j'ai regardé sur Internet, je ne savais plus. Mais d'un coup, il fait froid. Enfin, la nuit, il fait froid quand il n'y a pas le soleil. Mais quand on est en pleine journée et d'un coup, le soleil est masqué, 3 heures. Imagine la scène. D'autres signes, on a Jésus qui crie. Là, une parole que les auditeurs ne comprennent pas, attribue à Élie, enfin, ils ne savent pas trop quoi en dire. Mais là encore, Jésus dit textuellement un psaume, le psaume 22, toujours le verset 2. Il le fallait, cette séparation. Jésus-Christ le sait, Dieu le sait. Il est là pour quelque chose. Il est en train d'accomplir l'Écriture. Il est en train d'accomplir la mort. Voilà un signe. Il partage à ceux qui sont auditeurs là, la parole de Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Et nous comprenons ce cri, après la croix. Nous le comprenons aujourd'hui. Jésus poussa un grand cri, et vous avez vu aussi, rendit l'esprit. L'agonie de Christ n'a pas duré des heures, des jours. De façon libre, rendit l'esprit. Il y a vraiment, Jésus est maître de lui. Jésus donne sa vie. Il abandonne volontairement son esprit. Il meurt, il n'est pas en train de lutter pour se dire, je veux vivre. Non. Il l'a dit lui-même, Jean 10, 17, hein, il l'a dit, le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, je la donne de moi-même. Jésus-Christ se livre lui-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Jésus livre sa vie. Jésus est aux commandes, il a le pouvoir de la donner. C'est pas un hasard. C'est pas parce qu'il n'a pas plus de force, mais c'est parce que dans le plan de Dieu, il avait prévu de donner sa vie. Dieu était aux commandes, malgré l'horreur de ce qui se passe. Et Jean nous dit, tout est accompli. Jésus va dire, tout est accompli. À sa mort, ce n'est pas un accident de l'histoire. Sans sacrifice, pas de salut. Sans effusion, sans pas de salut. Bien que faible, Jésus meurt sur la croix. Et à cette mort, il y a encore des signes. Hein. Il y a celui-là qui est le plus connu, qu'on évoque régulièrement. Cette dévastation du sanctuaire, ce voile déchiré dans le temple. Cette séparation entre deux lieux. Tous les jours, les prêtres venaient dans le lieu saint pour présenter des offrandes, des sacrifices devant Dieu. Et il y avait un lieu qui était inaccessible, mais accessible qu'une fois par an, derrière un voile, un grand rideau, où il y avait l'arche. Depuis des siècles, c'était institué cela. Une fois par an seulement, le grand prêtre, désigné par Dieu, venait déposer, verser du sang. C'est une séparation. Et ici, quelque chose d'effroyable. Le rideau se ouvre. Le message est clair, et on le dit, plus de séparation, libre accès. Le voile déchiré, Christ a tout accompli. Hébreux 10, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire. On a accès au Saint des Saints. Oh. Cette route nouvelle et vivante, il l'a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de son propre corps. livré en spectacle à la croix. De plus, nous avons un souverain prêtre établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Libre accès. En raison de cette mort, il y a le bouleversement du sol ou un tremblement de terre. Pour les Juifs, c'est clair. Quand il y a tremblement de terre, c'est un signe de la présence et du jugement de Dieu. Il y a la résurrection de plusieurs personnes. Encore une affirmation qu'au dernier jour, au jugement, c'est la libération de la mort. Les morts ressuscitent. Marqué par des signes, Jésus accomplit sa mission. Cinquième, avant-dernier, identifier et regarder. Mais Jésus accomplit sa mission. L'ironie, on pourrait dire, de cette situation, c'est que les premiers dont l'Écriture nous dit qu'ils reconnaissent quelque chose de spécifique, c'est un soldat romain, un étranger. Le témoignage du centurion, je relis le verset 54. « À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur et dirent, ensemble d'ailleurs, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » À la vue du tremblement de terre et de ce qu'ils viennent de voir, et ce n'est pas juste de la superstition, ils sont touchés et ils sont dit, mais ça, c'est un événement divin. Cet homme était le Fils de Dieu. Ils étaient sensibles. Une frayeur émotionnelle qui se change en réflexion spirituelle, on pourrait dire. Cet homme était le Fils de Dieu. Il confesse la divinité de Jésus. Lui, un étranger, des étrangers, un païen, l'envahisseur des Juifs, reconnaît le premier que Jésus est le Fils de Dieu à cet instant. Alors nous, pour nous, c'est assez clair, hein, mais c'est ce qui va se développer dans la suite, dans le livre des Actes, où cette bonne nouvelle va se répandre aux nations, à tout homme, de toute nation. On a les prémices de ce que nous vivons aujourd'hui au moment où Christ meurt, où Christ donne sa vie. Nous avons les prémices de ce message qui touche. Il y a un deuxième groupe, hein, les femmes. Pas anodin, vous l'avez vu aussi, qui assistent aux événements un peu de loin parce que je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas être évident à voir. Mais c'est étonnant, hein. L'Écriture nous soulève que des femmes observent, regardent la scène de loin. Des femmes qui avaient assisté son ministère, qui avaient vécu des choses avec le Seigneur, qui l'avaient entendu. Des femmes qui seront les premiers témoins de la suite. Elles sont là, elles attendent, elles regardent, elles contemplent, elles s'interrogent, elles pleurent, je ne sais pas, plein de choses. Les disciples ont fui. D'autres évangiles, nous savons qu'il y avait Jean, mais voilà. Malgré l'horreur de ce qui se passe, les femmes sont restées jusqu'au dernier moment avec celui qu'elles avaient contemplé, écouté. Étaient touchées des semaines et des jours avant. Elles qui, dans le monde de l'époque, n'avaient si peu de place. Ce sont ces femmes qui sont présentes et qui vont manifester, déclarer la suite qu'on verra dimanche prochain. Elles vont l'accompagner jusqu'au tombeau, et c'est le dernier point. Hein. Même déposées dans le tombeau, Jésus accomplit sa mission. Et je trouve qu'il y a une providence incroyable, étonnante, avec cette mise au tombeau. Et on le passe souvent rapidement. On a la mort, on a la résurrection. On survole trop rapidement parfois ce temps. Mais on voit qu'il y a de nombreuses vérités qui soulignent que cela accomplit le plan de Dieu. Dieu en a maîtrisé chaque petit détail, même la manœuvre des opposants. Cette mise au tombeau accomplit aussi des prophéties, accomplit aussi ce que Dieu avait promis. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec le riche, Ésaïe 53:9, hein, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas eu de tromperie dans sa bouche. Même s'il est mort avec les criminels, il n'a pas été jeté dans la fosse commune, mais dans un tombeau d'un riche. Et le voyons, hein, avec Joseph d'Arimathée, qui prend son courage, qui vient réclamer le corps, qui vient lui donner une sépulture décente. Un riche, mais on apprend même les textes parallèles, un chef religieux. Un disciple de l'ombre, mais qui s'affirme là, il prend ce corps, il le dépose, il va le prendre, il va le mettre dans son tombeau. Il va lui rendre un hommage digne de cet homme. Et on voit une collaboration souveraine des Romains, les Romains sont d'accord. On le voit. Cela accomplit l'Écriture. Il faut quand même se dire que, d'ailleurs on le sait qu'il était avec Nicodème aussi, un homme qui n'a pas osé s'afficher par le passé. Il faut quand même se dire que là, ils sont en train de décocher un cadavre. Et pour un juif, cela veut dire se souiller. Cela veut dire ne pas fêter la Pâque qu'ils vont fêter. Il est prêt à mettre une croix sur quelque chose que les chefs religieux étaient fermes sur la Pâque pour rendre, parce que voilà, ils reconnaissaient quelque chose qui était en train de se passer, même s'ils n'avaient peut-être pas toutes les clés. Dieu accomplit sa mission à sa mort. Cela accomplit l'Écriture. Et même les opposants qui veulent maintenant vérifier, on a le contraste entre la bonté de Joseph, sa bienveillance, les soins qu'il donne à la mort de Jésus, à la dépouille de Jésus et la machination encore des autorités qui poursuivent, ils disent, les disciples, ils étaient loin, ils avaient oublié que Jésus allait ressusciter, enfin, en tout cas, on ne les voit pas, ils sont absents, on le sait qu'ils ont même peur. Mais là, les Juifs, ils disent, on va mettre toutes les chances de notre côté pour qu'ils ne récupèrent pas ce corps. Ils sont préoccupés de son influence et ils demandent de le garder et de le sceller, ce tombeau. Et tout cela prépare à la déclaration qui va venir et qu'on partagera dimanche prochain. Mes amis, the end. C'est dramatique ce qui se passe dans le texte. On est dans les ténèbres, on pourrait dire c'est la fin. 3 ans de vie qui se terminent ainsi. J'imagine le sentiment des témoins, des disciples, la foule, de ces femmes. Tout est terminé, game over. Enfin, je sais pas. Mais l'Écriture dit, ici, tout est accompli. Le tableau est sombre, mais Jésus devait passer par là. Ce qui se passe n'est pas un hasard. C'est Dieu qui, avant la fondation d'un monde, qui se déroule sur des siècles, vient marquer ce tournant de l'histoire, la mort de Christ. Le Fils de Dieu est mort pour nous. Mes amis, la croix, la mort de Christ, un instrument de mise à mort, un symbole d'identification d'ailleurs des chrétiens. Et il ne nous a pas été imposé, il n'y a pas eu une recherche d'un logo, de se dire, allez les chrétiens, qu'est-ce qu'on choisit comme identité visuelle? Un instrument de torture. Est-ce une bonne manière de faire connaître l'évangile? On aurait pu choisir un berger qui porte un mouton, ou le poisson qu'on a sur certaines de nos voitures, mais un truc un peu plus. Non, on choisit un instrument de mise à mort. Parce qu'au centre du message de l'Écriture, au centre du plan de Dieu, c'est la mort. Et les chrétiens l'ont compris depuis des siècles, le partage depuis des siècles. C'est ni sa naissance, c'est ni sa vie de service, c'est ni sa résurrection, ni son règne, ni le don du Saint-Esprit, mais sa mort sur la croix qui est au cœur. Jésus est mort pour nous. Jésus accomplit sa mission pour nous. 1 Jean 4, versets 9 et 10. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que, par lui, nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés, comme un homme qui allait mourir sur la croix, crucifié. L'importance centrale de la croix, un amour du Père pour nous. La croix, c'est le plus grand spectacle que Dieu a conçu, opéré dans l'histoire du monde. La charnière, le point de contact entre le avant et le après. Entre tous les temps, entre les histoires humaines qui rencontrent Dieu, se passe à la croix. C'est là, sur la croix, que Christ a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens, passage très connu. À partir de ce moment-là de l'histoire, Dieu a voulu que chaque être humain soit centré sur ce moment crucial. Dieu aurait pu dire « Voici mon Fils bien-aimé, crucifié pour vous ». Un spectacle qui devrait capturer à jamais votre vie. En fait, notre réponse à Dieu dépend de la réponse qu'on donne à ce message de la croix, à ce message de la mort. Il y a plusieurs façons. Est-ce qu'on se moque de la mort d'un roi? Est-ce qu'on se dit que c'est un malentendu tragique d'un homme rempli de bien, d'un homme innocent? Ou est-ce que c'est quelque chose planifié par Dieu dans le but de montrer aux hommes une beauté inégalée? Le spectacle de la croix, mes amis, ne peut être compris que par notre conversion. Quand je regarde ma vie passée et que je vois que c'est mes péchés qui ont perforé le corps ensanglanté de Christ, c'est ma vie, c'est pour ma vie qu'il a versé son sang. J'ai transpercé le corps de celui que Dieu aime. La croix a été élevée pour donner la vie à des milliers, des milliers, des milliers d'hommes et de femmes qui souhaitaient être réconciliés avec Dieu le Père. Un spectacle de vie et d'amour de Dieu gratuitement offert. À ce moment-là, Dieu rétablit le ciel et la terre, les hommes entre eux. Sur cette croix, la colère et la compassion de Dieu se rencontrent. Un célèbre, Spurgeon, célèbre prédicateur, a dit « Il n'y a jamais eu pareille image que celle dessinée par Dieu avec les crayons de l'amour éternel, plongée dans la couleur de la colère du Tout-Puissant sur le mont du Calvaire. » C'est à la croix que Dieu a montré son amour et montré aussi que sa justice parfaite devait s'abattre
sur son Fils. Regardons la croix, parce que plus nous sommes appelés à la regarder, plus nous sommes appelés à voir la gloire de Dieu aussi, qui s'est révélée, pardonnée, tout ce qui nous séparait de lui. Je pourrais en parler encore des heures. Je propose de nous arrêter là et dimanche prochain, on verra cette manifestation que ce sacrifice a été reçu par la résurrection. Mais le cœur du message, c'est la croix, le sang versé, pour un plein rétablissement entre nous et notre Dieu.